Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les journaux, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les victimes des différents conflits réclament justice et veulent préserver la mémoire des massacres commis dans la région de Beni. Plaidoyer fait samedi dernier dans cette partie du Nord Kivu lors d'une cérémonie de commémoration dans le cadre des activités de Génocoste. Le président de la République appelle le gouvernement à mettre tout en œuvre pour garantir une rentrée scolaire 2026-2027 effective, apaisée et inclusive des enseignements sur l'ensemble du territoire national. Il a rappelé lors de sa communication au dernier Conseil des ministres. L'invité de ce journal est le président du Conseil d'administration de l'Université de l'environnement maritime, le professeur Michael Mavwemba Kinkela, spécialiste en droit maritime, parle de l'implantation de ce nouvel établissement d'enseignement supérieur et universitaire à Matadi, dans la province du Congo central. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, les victimes des différents conflits réclament justice et veulent préserver la mémoire des massacres commis dans la région de Beni. Une cérémonie de commémoration s'est tenue samedi dernier à Kipriani, dans le quartier Boïkene à Beni, dans le cadre des activités de Génocoste consacrées à la mémoire des victimes des massacres en RDC. Organisée par le collectif des victimes de l'agression rwandaise Sévar, cette rencontre a également été l'occasion d'appeler les jeunes à s'engager davantage pour l'avenir du pays. Marc Marofimbo, reportage.
Innocent Rougueiro, président du conseil d'administration du Sévar, a rappelé la précarité dans laquelle vivent de nombreuses victimes des massacres. Il réclame notamment que justice leur soit rendue.
Nous réclamons que la justice soit rendue pour que les auteurs de ces agressions, les auteurs de ces massacres soient traduits en justice. Aujourd'hui, les victimes vivent une situation terrible. Vous voyez, nous sommes ici à l'ICBC. À côté de nous, ici, il y a les pygmées qui sont là. Si vous les voyez, ils n'ont pas le médicament, ils n'ont pas quoi manger. Donc c'est la souffrance.
De leur côté, les jeunes artistes slameurs de Beni appellent leur père à ne pas rester spectateur face aux violences qui frappent l'est du pays. Esdras Kitamata est l'un d'eux.
Nous sommes censés de mobiliser ce peuple puisque chaque jour qui passe, notre pays est agressé. C'est le bon moment de se réveiller et de prendre notre avenir à main puisque à toute la jeunesse de mon pays, que rien ne vous embrille. Nous avons un pays à bâtir, comme notre hymne le cite. Nous avons un bon pays à bâtir, c'est par l'union, l'amour et le vivre ensemble.
La cérémonie s'est clôturée par une visite au site du village de Papakombi Bakondo, où reposent normalement des victimes de la dernière attaque des ADF le 30 mai dernier dans le quartier Ngadi à Beni. Marc Marofimbo, Beni Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, près d'une centaine de familles se retrouvent sans abri après la démolition de leur maison dans le centre minier de Rubaya, en territoire de Masisi. Selon des sources locales, cette opération entamée il y a environ une semaine s'est poursuivie samedi dernier dans un secteur communément appelé Cheruti Vumbura, à la périphérie de la cité. D'après ces sources, les démolitions sont liées à une expropriation destinée à permettre l'extension de la carrière d'exploitation du coltan. Les détails avec vous, Jean Gandou.
Selon plusieurs sources locales et un recueil anonymat, l'opération de démolition commencée mercredi dernier s'est poursuivie ce samedi. À ce jour, près d'une centaine d'habitations auraient déjà été démolies dans cet espace connu sous le nom de Cheruti Vumbura, situé à proximité du principal site d'exploitation du coltan de Rubaya. D'après ces sources, un ordre de déguerpissement aurait été donné aux habitants par les responsables du mouvement AFC 123. Les motifs officiels ne sont pas encore connus. Toutefois, plusieurs proches des victimes estiment qu'elles pourraient être liées à un projet d'extension de la zone d'exploitation du coltan dont le gisement s'étend vers cette partie habitée de la cité. Les familles affectées, estimées à plus d'une centaine, dénoncent une décision qu'elles qualifient d'arbitraire. Elles affirment qu'aucune mesure d'indemnisation n'a été prévue, ce qui constitue selon elles une violation de leurs droits. Sous contrôle de l'AFC M23 depuis plus de 2 ans, le site minier des Rubaya demeure exploité malgré son classement en zone rouge. L'an dernier, plus de 200 creuseurs artisanaux y ont perdu la vie à la suite de leur non-encadrement, des glissements de terre et surtout des conditions de sécurité précaires dans lesquelles ils travaillent.
À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République appelle le gouvernement à mettre tout en œuvre pour garantir une reprise effective, apaisée et inclusive des enseignements sur l'ensemble du territoire national. Il a rappelé lors de sa communication au dernier Conseil des ministres. Pour le chef de l'État, l'exécutif national doit également mobiliser les moyens nécessaires afin d'assurer l'accès à l'éducation pour tous, avec une attention particulière aux élèves affectés par la crise sécuritaire dans l'est du pays. Écoutez les explications de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre des Communications et Médias, dans cet extrait choisi par Richard Junior Kamunga.
À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République a appelé le gouvernement à une mobilisation soutenue afin de garantir à chaque enfant congolais l'exercice effectif de son droit à l'éducation. Une attention particulière devra ainsi être accordée à la préservation de la paix sociale à travers un dialogue permanent avec les enseignants, le respect des engagements souscrits par le gouvernement et la consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement en vue d'assurer une reprise effective et régulière des enseignements dès le premier jour. Cette préparation devra intégrer les enjeux éducatifs, sociaux, financiers, sanitaires, sécuritaires et de mobilité, avec une attention particulière aux enfants du Nord Kivu et du Sud Kivu affectés par le conflit et par l'occupation. À cet effet, le président de la République a chargé la première ministre de coordonner un dispositif gouvernemental spécial de préparation et d'accompagnement de la rentrée scolaire 2026-2027, garantissant notamment, avec l'appui de partenaires, la continuité des apprentissages et la prise en charge des enfants déplacés ou privés d'un accès régulier à l'école dans les zones concernées.
Honore qui vous, pendant ce temps, les défenseurs des droits des enfants appellent les autorités à agir en amont pour éviter une nouvelle perturbation des cours par des mouvements de grève des enseignants à Butembo et à Lubero. Regen Bangae du Parlement d'enfants et défenseurs de leurs droits dans la région demandent notamment au gouvernement d'anticiper les revendications des enseignants sur leur salaire et leur prise en charge. Il redoute que les élèves soient une nouvelle fois les premières victimes de ces perturbations. Il est au téléphone de Martial Papimukeba.
Aucun enfant ne doit être privé de l'éducation. Tous les enfants, filles et garçons, vivent avec handicap ou non, déplacés ou non, tous les enfants, en tout cas, doivent aller à l'école. À partir de quelques années passées, nous avons observé à chaque rentrée scolaire un mouvement de grève annoncé par les enseignants ou effectué par les enseignants à cause de leur paiement ou à cause de leur prise en charge. Mais alors, nous alertons dès à présent, commençant par le ministère de l'Éducation nationale, les enseignants et même la division provinciale d'éducation nationale. Nous alertons toutes ces parties prenantes à bien assurer la préparation pourvu qu'on ne puisse pas observer ces mouvements de grève encore une fois à cette rentrée scolaire parce que on a vu les calendriers scolaires être vraiment perturbés parce que dès le début il y avait des mouvements de grève. En tout cas, les enseignants de profiter de ces moments ici pour présenter leurs desiderata au gouvernement congolais et au gouvernement congolais aussi à son tour de répondre à ces desiderata ou de prendre langue avec les enseignants pendant cette période de préparation.
Au Congo central, par contre, le sourire revient peu à peu sur les visages des élèves de l'école primaire Mvoidou à Matadi et leurs parents après la démolition partielle il y a un mois de cet établissement part pour permettre la réhabilitation des routes. À ce jour, grâce aux travaux de reconstruction engagés par l'entreprise Wasi Congo, en collaboration avec les autorités urbaines, les anciennes salles de classe, dont certaines montraient déjà des signes de dégradation avancée, laissent progressivement place à de nouvelles infrastructures. Une avancée qui rassure les familles et laisse entrevoir une reprise des cours dans les meilleures conditions à quelques semaines de la rentrée scolaire. Élise Kavira nous fait le point.
À mesure que les nouveaux bâtiments prennent forme, les parents retrouvent l'espoir. Pour cette mère de famille, dont trois de ses enfants fréquentent cette école, les craintes de première semaine ont laissé place au soulagement.
On était inquiets de voir l'école démolie, mais les travaux avancent vite. Nous sommes heureux de savoir que les enfants suivront le cours dans de nouveaux locaux.
Les élèves sont sans doute les plus heureux de cette reconstruction. Cet écolier rencontré sur place, impatient de retrouver ses camarades dans sa nouvelle classe, confie revenir régulièrement sur le chantier pour suivre l'avancée des travaux.
Quand il pleuvait, l'eau entrait à travers les fuites des tôles. J'aurais vraiment souhaité qu'on détruise tous les bâtiments pour en construire de nouveaux.
Selon Jet Lutumba, responsable de Wasi Congo, la vétusté des infrastructures ne laissait plus d'autre choix que de reconstruire.
Cette école-là était déjà à un état délabré complètement. Alors, vous allez constater que c'est en pleine construction déjà pour donner un ouvrage plus décent à ces élèves-là qui doivent étudier dans de très bonnes conditions.
Pour l'entreprise Wasi Congo, c'est un défi relevé. Finaliser les travaux afin de ne pas perturber la bonne reprise des cours par les élèves à la prochaine rentrée scolaire. Depuis Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Au Maniema, notamment à Kayuyu, village situé à 109 km de la ville de Kindu, la population est coupée de toute communication. L'unique réseau de télécommunications Vodacom qui existe dans ce coin est coupé il y a cela un mois. Le chef de secteur de Wakabongo 2 plaide pour le rétablissement rapide du réseau afin de permettre à la population de bénéficier de ses services. Pour Ngumbi, Kaloko, la Prince, les conséquences de cette absence de communication pendant un mois sont incalculables. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Effectivement, nous avons un problème de la communication au niveau de Kayuyu. Ça fait maintenant un mois. Le réseau Vodacom ne fonctionne pas. C'est pourquoi la population est en difficulté. Et aussi, les enseignants sont en difficulté de leur mouvement de paiement au niveau de la M-Pesa. Nous nous communiquons souvent au réseau Wi-Fi. Là, on paye 1500, 2000, 5000, 10 000 francs. C'est ça la difficulté que nous avons ici à Kayuyu. Ceux qui n'ont pas de téléphone et Android ne se communiquent pas jusqu'à aujourd'hui. Ça crée des problèmes au niveau de Kayuyu. Peut avoir aussi des conséquences de la communication. Il y a des urgences et maintenant nous nous retrouvons maintenant en difficulté. Nous avions déjà contacté le Vodacom et jusque-là il n'y a pas encore une information qui est fiable. C'est pourquoi nous demandons aux autorités provinciales de veiller sur nous pour les problèmes de la communication au niveau de Kayuyu. Nous sommes au 21e siècle. Quand il n'y a pas de communication vraiment, nous nous retrouvons dans une difficulté grave et en insécurité aussi. Que les autorités fassent quelque chose.
Par ailleurs, les jeunes entrepreneurs de la ville de Kananga font face à de nombreuses difficultés, notamment le manque de financement, la rareté des opportunités et l'insuffisance d'un accompagnement adapté. Une situation qui pousse certains à abandonner leur projet ou à tenter leur chance ailleurs. Mais ceux qui choisissent de rester veulent démontrer qu'il est possible de réussir dans leur ville. Refusant de baisser les bras face aux obstacles, ils misent sur leurs propres moyens pour développer leurs activités et prouver que la réussite est possible malgré les difficultés. Le point avec André Katendenga Lamouloumé.
Entreprendre à Kananga n'est pas toujours chose facile. Les manques de financement, la faiblesse des opportunités et l'insuffisance de l'accompagnement constituent des défis majeurs pour les jeunes porteurs de projets. Certains préfèrent partir tandis que d'autres abandonnent tout simplement leurs ambitions. Cependant, plusieurs jeunes entrepreneurs ont fait le choix de rester et de persévérer. C'est le cas de Giscard Katala, propriétaire de la firme KTL, spécialisée dans la fabrication de la mayonnaise Mayo Bio. Malgré les difficultés, son entreprise continue de fonctionner. Elle lui permet non seulement de subvenir à ses besoins, mais aussi de créer quelques emplois pour d'autres jeunes.
J'avais tendance à voir le transport ou les frais académiques de parents. Cette activité m'aide.
Comme lui, de nombreux entrepreneurs locaux croient au potentiel de leur ville et réinvestissent leurs bénéfices dans le développement de leurs activités. Héritier Massambila appelle le jeune à faire preuve de résilience tout en plaidant pour un soutien accru en faveur de l'entreprise. Entrepreneuriat local.
Il faut un encadrement, une bonne formation et les soutiens financiers.
Par ailleurs, de nouvelles opportunités commencent à émerger. C'est notamment le cas du festival Sankai. Il constitue un cadre d'échange où les jeunes entrepreneurs peuvent présenter leurs initiatives, développer leur réseau et accéder à de nouvelles opportunités. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Et puis, quatre villages situés à Fungurume, dans la province du Dualaba, sont impactés par des émanations toxiques des deux usines de l'entreprise TFM. Information livrée par la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles, Kasmi Agé, qui accuse l'entreprise TFM de pollution de l'environnement. Dans un rapport parvenu hier dimanche à Radio Capi, Kasmi Agé souligne que ces usines de TFM sont érigées à proximité des villages. On écoute Shadrak Moukad, coordonnateur national de Kasmi Agé, au micro de Paulin Mounanga.
Un champ de maïs qui produisait avant l'installation de ces usines, une superficie qui produisait 150 à 200 seaux de maïs. Aujourd'hui, il est difficile de produire ou de récolter dans cette superficie, ne fût-ce que 25 seaux ou 30 seaux. C'est vraiment grave. Les choux, les champs maraîchers ne produisent absolument rien. Les aubergines ne produisent absolument rien. Vous trouvez les bananiers qui sont frappés d'une décroissance totale. Au lieu de croître, les bananiers décroissent. Et c'est grave. Nous avons trouvé également la détérioration rapide des tôles. Dans moins de 6 mois, il faut remplacer d'autres tôles. Et aussi, les femmes vont à des sources d'eau pour se laver ou faire la lessive, mais elles reviennent avec des graves chatouillements. Et lorsque le matin ou le soir qu'on allume ces fours ou ces usines, les gens doivent s'enfermer dans des maisons pendant 2-3 heures jusqu'à ce que la fumée va disparaître. Donc ça chatouille, ça sent très mal même dans des maisons. Donc il y a un environnement malsain, un environnement invivable.
contacter les responsables de TFM ont promis de s'exprimer prochainement à ce sujet. Par ailleurs, Kassmi Agé dit avoir saisi les autorités de Lualaba et la gouverneure de province a répondu en instruisant les services concernés à descendre sur le terrain pour vérifier les allégations.
Actualité internationale.
Au Kenya, des violences ont éclaté hier dimanche dans l'ouest du pays où se tenait un rassemblement de l'opposition. Un sénateur de Nairobi a fait des déplacements ainsi que d'autres députés sous la bannière du mouvement Linda Mwananchi qui vise à rassembler la jeunesse et rallier les mécontents du gouvernement de William Ruto en amont du scrutin présidentiel d'août 2027.
L'invité.
L'invité de ce journal est le président du conseil d'administration de l'Université de l'environnement maritime, l'UNIEM, le professeur Michael Mavwemba Kinkela, spécialiste en droit maritime, parle de ce nouvel établissement d'enseignement supérieur et universitaire qui ouvre ses portes à Matadi, dans la province du Congo central. Il s'entretient avec Élise Kavira.
Bonjour, professeur Mavwemba.
Bonjour, madame.
Professeur, d'où est venue l'initiative de créer l'Université de l'environnement maritime ici à Matadi?
Bon, pour créer l'université, l'initiative vient d'un constat. En effet, vous le savez que l'environnement maritime et du commerce international, dans lequel se situe la province du Congo central, se révèle être un environnement particulier. C'est une ville où il existe plus de 7 ports internationaux comme nationaux, voire même 7 sites d'import et export, avec comme conséquence sur les transports, qui crée un penchant et permet à nous autres de penser à ce qu'une étude ou des études soient faites au niveau de ces constats. Parce qu'il ne faut pas oublier les flux d'activités de transport, ainsi que les activités de transport par mer, par fleuve, par route, par voie ferroviaire, doivent être une préoccupation de tous les habitants de la ville de Matadi.
Quelle est exactement la particularité de l'UNIEM par rapport aux autres établissements d'enseignement supérieur qui existent déjà dans la province?
La particularité de cette université est que, tout en étant une université qui ait prévu plusieurs filières, mais elle se concentre plus dans les domaines de l'environnement de transport parce que cet environnement se révèle être l'environnement maritime où évolue bien entendu un certain nombre de Mataliens. Les Mataliens trouveront aujourd'hui une opportunité d'étudier localement dans un quartier de Matadi, Tchassadi Toumba, le Soyo 4, plus précisément sur l'avenue Mavwemba numéro 1, dans la commune de Matadi. Ça sera pour la première fois que le Matadien trouve une université qui renferme de facultés qui chevauchent dans les domaines de transport.
Quelles sont les filières qui seront organisées à l'UNIEM?
Les filières qui sont organisées sont les transports, logistique et l'environnement. Nous avons le droit ou les sciences juridiques. Nous avons l'économie des transports. Nous avons la filière de sciences sociales, politiques, administratives et relations internationales. Nous avons la gestion des entreprises et les sciences informatiques. Et nous avons la biodiversité comme une filière qui évolue dans les sciences de l'environnement. En réalité, nous ne sommes pas qu'une université, nous créons aussi les capacitariats, pour ne pas dire les renforcements des capacités. Donc, les personnes qui n'ont pas de diplôme d'État ou les titres équivalents peuvent venir suivre certaines formations que nous organisons. C'est pourquoi nous organisons les formations en droit, en déclaration, en notariat, en inspectorat judiciaire, en géométrie, pourquoi ne pas dire qu'en cadastre et titre minier, en secrétariat ou à l'assistant au secrétariat et les domaines connexes.
À quand est prévu le début effectif des cours et des activités académiques à l'UNIEM?
Écoutez, l'institution ouvre ses portes au mois d'octobre 2026. Les étudiants se bousculent déjà. Nous sentons que ces étudiants sont intéressés.
Quel message adressez-vous à la jeunesse du Congo central, en particulier celle qui aspire à une formation universitaire de qualité?
Le message à donner à la population, c'est que c'est une université moderne. Elle est déjà construite. On attend à compter le nombre de ces jeunes gens qui viendront suivre les formations, ainsi que de certaines personnes, comme bien responsables, qui viendront nous visiter. Mais un message particulier, c'est qu'en réalité, les milieux jouent toujours un rôle important lorsque quelqu'un veut faire des études. On ne peut pas étudier en vain, on étudie pour servir les milieux, servir son environnement. Voilà que donc le Matadien auront trouvé à travers l'Université de l'environnement maritime ou l'UNIEM un cadre d'études qui tienne compte des réalités sociales, des réalités de l'environnement ou des réalités tirer de la province, voire même de la ville de Matadi. Parce que ça offre les cadres d'apprentissage en partenariat avec les sociétés des transports de la place.
Professeur Michael Maes Mavuimba Luzitusu, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup et de très bonnes choses.
C'était l'invité de ce journal, le président du conseil d'administration de l'Université de l'environnement maritime UNIEM, le professeur Michael Mavuimba Kinkela, également spécialiste en droit maritime, s'entretenait à Matadi avec Élise Kavira. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Richard Junior Kamunga, Dieudonné Nyangasa, la mise en onde. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.